C'est vrai, on m'a demandé, on a réfléchi un peu ensemble à travailler Joël. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voudrais juste quelques remarques préliminaires. Alors, qui de vous a déjà entendu un message ou une étude sur Joël? Ah. Ah ben ça tombe bien. Mais figurez-vous que avant de préparer ces 3 temps qu'on aura aujourd'hui, il faut dire que pour moi, j'ai dû creuser et je me suis dit, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir entendu un message, d'avoir entendu une méditation sur ce livre de Joël. Pourtant, il est très, très court et très intéressant, vous verrez. Alors, dans le cadre de ma formation, je vais traiter le livre de Joël dans 15 jours. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'y ai travaillé avant et je pense que c'est un vrai bénéfice. Donc, vous me pardonnerez peut-être l'une ou l'autre des erreurs. Alors, je ne suis pas un connaisseur en langue originale. Je ne vais pas rentrer dans des aspects techniques, même si parfois, on va préciser certains éléments qui, peut-être, paraissent pour l'un ou l'autre barbants, ennuyants. Mais c'est important pour travailler le texte. Mais avant tout, et je trouve pour vous, il faut aussi le prendre comme ça, pour cette journée, c'est un privilège de pouvoir, en cette journée-là, prendre ce temps de s'arrêter sur ce livre et de le survoler en entier. Vous verrez qu'on trouvera des trésors, et en tout cas j'en ai trouvé, j'espère que pour vous ce sera aussi le cas, de pouvoir, en une journée, de survoler ce livre et d'essayer de comprendre les intentions de l'auteur, les intentions de Dieu au travers de ce livre. Et vous verrez que c'est vraiment, franchement, ça vaut la peine. J'aime aussi rappeler que ce qui est parole de Dieu, ce qui est vrai, c'est le texte biblique, et c'est peut-être pas ce que je vais dire. Je vais peut-être dire des bourdes, je vais peut-être dire des choses, voilà, mal intentionnées, en tout cas que le Seigneur me garde, mais en tout cas, ce que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est le texte, et c'est le texte qui fait autorité. Et aussi, donc du coup, mon désir aussi, c'est peut-être qu'à la fin de cette journée, vous aurez encore davantage envie, alors de creuser ce texte de Joël, mais de passer du temps avec la parole de Dieu. En tout cas, c'est mon objectif aussi, que au travers de temps d'études, autant de méditation, autant de lecture simplement de la parole de Dieu, que nous puissions avoir soif d'aller plus loin. Alors, pour mon temps plus loin, on peut peut-être afficher le plan. C'est la diapo suivante. Alors, ce que je propose de faire dans ce premier temps, c'est de voir le contexte, petit prophète. Dans un deuxième temps, comment étudier un prophète? Parce que je vais rester très général dans cette première partie. On va un peu faire une introduction au livre de Joël. On va lire le texte de Joël en entier. Ça prend pas trop de temps, ça prend une dizaine de minutes à peu près, entre 10 et 15 minutes. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail. On fera un plan structurel de Joël, comme ça nous permettra de voir un peu la réflexion, son déroulement de la pensée. Et puis cet après-midi, dans les deuxièmes temps, on rentrera vraiment dans le précieux des sujets. On peut passer à la diapo suivante, le contexte. Petit prophète. Alors le livre de Joël, c'est un livre de l'Ancien Testament. Alors je ne vous apprends rien là. Et il fait partie, c'est un petit prophète, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas souvent, on le trouve peut-être pas facilement dans notre Bible. Il fait partie de ce qu'on appelle le livre des 12 petits prophètes. C'est une collection de livres en fait. Et on les a rangés comme ça parce que ben, ces livres bibliques ont le nom de l'auteur. Donc ça nous donne déjà une idée. Ben, le livre de Joël, ben, c'est l'auteur, c'est Joël. Alors il faut savoir que dans le canon biblique, dans l'Ancien Testament hébraïque, le livre de Joël est rangé justement dans cette section de petits prophètes et de prophètes antérieurs. Et on les classe de 15, alors je disais 12, mais 15, parce qu'il y a trois grands prophètes. Donc on entend souvent Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Donc ça, c'est des noms qui nous disent plus, qui nous disent davantage. Et puis après, à côté de là, il y a le livre des 12 dans lequel se classe Joël. Donc ça, c'est dans le canon hébraïque. Et dans nos Bibles, qui sont souvent tirées de la traduction grecque, ben Joël fait toujours partie de ces 12 petits prophètes, mais il y a encore Daniel qui est classé parmi les prophètes et les lamentations de Jérémie aussi. Donc ça, c'est dans le livre des 12. On peut passer, je pense que voilà, deuxième petit point, c'est la date. Alors les petits prophètes, le livre, ben, ça exerce un ministère qui se trouve entre le 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, ça fait presque 26 siècles qui sont passés entre ces écrits et les textes, enfin entre ces textes et notre vie aujourd'hui. Donc on pourrait se dire qu'il y a un sacré décalage. Mais il faut se faire attention, les 15 petits prophètes et les 12 petits prophètes, et Joël notamment, ce n'est pas les seuls prophètes qu'on a de l'Ancien Testament qui nous ont laissé des écrits. Il y en a plusieurs autres personnes qu'on classe aussi parmi prophètes, mais voilà, ce n'est pas des livres prophétiques en tant que tels. Et on parle d'Abraham, hein. Abraham était un prophète et il est rangé dans la Genèse, son histoire. On parle de Moïse, qui est une grande figure prophétique, qui est le médiateur entre l'alliance de Dieu. On a Myriam, pour ceux que ça dit quelque chose, la sœur de Moïse, Déborah, Samuel, Nathan, qui travaillait auprès de David, était un prophète. Du coup, on peut se questionner, mais qu'est-ce que c'est un prophète ? On parle de Joël, c'est un prophète, ok. Donc, un prophète, qu'est-ce que c'est ? Alors, on pense souvent que prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Un prophète est d'abord un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui communique un message de la part de Dieu. Donc, il donne une prophétie, c'est vrai, mais c'est une personne qui a les paroles de Dieu dans sa bouche et qui les énonce, qui les dévoile oralement ou par écrit. Et donc, il y a vraiment une communication entre Dieu et son prophète. Et le prophète, ben, il va parler dans sa génération, au peuple qui l'entoure, et aux générations suivantes, s'il nous a laissé un texte écrit. Alors, on peut se poser la question, mais comment ils sont devenus prophètes ? Alors, on sait que dans la Bible, par exemple, un prêtre, ben, on est prêtre par filiation. On est de père en fils, on est prêtre. Pour être prêtre de l'Éternel, notamment, il faut prouver qu'on fait bien partie de la généalogie de prêtres, que dans sa descendance, ben, on fait bien partie de la tribu de Lévi, par exemple. Alors, pour roi, les rois dans la Bible, on se pose la question, mais comment ils sont devenus rois ? Alors, roi, souvent par onction, aussi par filiation, de père en fils, et souvent aussi par usurpation voilà, on a éjecté le roi d'avant, on l'a tué, on l'a massacré. Voilà, donc c'est comme ça qu'on devenait roi. Mais prophète, il n'y a pas de lien direct. Ce n'est ni un choix, souvent ni une formation, c'est un appel de Dieu. Et plusieurs fois, il y a plusieurs prophètes où on voit clairement que Dieu interpelle un homme et fait de lui un porte-parole de l'Éternel, un porte-parole de Dieu. Et Dieu a accordé tout au long de l'histoire, et notamment de l'histoire biblique, des prophètes. Et notamment, ici, je disais tout à l'heure, hein, on a une grande proportion des livres prophétiques entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a un grand blanc, en tout cas, on n'a pas d'écrit, un grand blanc entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On se dit, mais est-ce qu'il y a eu des prophètes ? Mais en tout cas, on n'a pas de trace écrite. Mais, on va dire, la parole prophétique et des prophètes ont repris avec la venue du Messie et de Jésus, et on parle de Jean-Baptiste comme un prophète qui a annoncé la venue de Jésus, par exemple. Donc là, c'est... Alors, on peut se poser la question, mais comment ils ont reçu ce message en tant que prophète qu'ils transmettent ? Et dans toutes les situations, on voit clairement qu'il y a la place de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui a pris ces personnes, qui les a interpellées. Alors, il a utilisé une vision. Parfois, il y a des prophètes qui ont eu une vision. Parfois, ils ont eu un rêve. Parfois, ils ont entendu audiblement la voix de Dieu ou intérieurement. Ils ont peut-être vu une vision surnaturelle. Ils ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et peut-être que certains d'entre vous imaginent Daniel, prophète. Et Daniel a vu des choses et il nous a laissé des trucs incroyables, des images dont on a mal aujourd'hui de trouver le sens, de comprendre tout à fait. Mais en tout cas, les prophètes ont reconnu au moment où ils ont reçu ce message, clairement les directives divines. Et du coup, ces prophètes ont transmis ce message. Alors comment ils ont transmis ce message ? Parfois c'était oralement, hein, par un sermon. Parfois ils ont fait un discours en public. Parfois ils ont simplement adressé un mot au roi. On retrouve, par exemple, dans les livres des rois, on a à un moment donné Ésaïe qui envoie un message au roi Ézéchias, par exemple, et il envoie un message qu'il a eu de la part de Dieu, simplement sous la forme d'un porte-parole qui va lui dresser un mot. Parfois, c'est une proclamation, il va annoncer une série de malheurs. « Voici les jours viennent, ainsi parle l'Éternel », c'est des mots qu'on retrouve dans Ésaïe. Parfois, ils font des gestes symboliques et on ne comprend pas trop. Ils font des trucs un peu étranges pour marquer ce que Dieu veut dire. Mais en tout cas, ils ont laissé, certains d'entre eux, des prophètes ont laissé des écrits. Et Joël, par exemple, est une trace écrite d'une parole que Dieu nous a adressée. Et quand on étudie les prophètes, on voit que les styles sont variés, les genres sont variés. Ça va du récit biographique parfois à l'histoire. Parfois c'est un poème, parfois c'est une prière, parfois c'est une demande, parfois c'est un reproche, parfois c'est une lamentation, un pleur, c'est des allégories. Souvent c'est très imagé et vous le verrez aussi au travers de Joël. Tout pour susciter l'intérêt, pour interpeller le peuple, pour interpeller notre attention, pour frapper le regard, pour favoriser la mémorisation. Alors, il ne faut pas oublier que derrière tous ces textes prophétiques, qui sont des fois compliqués, un prophète proclame la volonté de Dieu. Je disais, c'était un porte-parole de Dieu. Il donne un message que Dieu voulait nous transmettre. Et si ce matin, nous avons Joël, c'est que Dieu a voulu que nous ayons ce message et que nous prenions le temps de l'étudier, de le creuser. Alors, quelles sont les fonctions qu'il y a derrière le prophète? Pourquoi un prophète et qu'est-ce qu'on peut y chercher pour nous? En tout cas, dans tous les cas, un prophète voulait encourager le peuple à se confier dans la puissance de Dieu. Tout à l'heure, en louant Dieu, on voulait nous encourager à chacun à vouloir dépendre de Dieu, à nous attacher, à nous attendre à lui, à nous adresser à lui. Et le prophète était vraiment là pour rappeler, pour peut-être tirer les oreilles parfois, de pouvoir se confier en Dieu et de ne pas se confier dans ses forces propres. Un prophète était aussi là pour encourager à s'attacher inconditionnellement à l'alliance que Dieu avait faite envers Dieu. On a chanté tout à l'heure, si tu veux marcher, te plier à sa loi. Ça veut dire si tu veux obéir au commandement de Dieu. Et un prophète était là pour encourager le peuple à obéir au commandement, à se soumettre à l'Éternel, sans condition. Encourager à avoir une foi dans les paroles de Dieu. Un prophète était aussi là pour souvent apporter des fois un message de paix, un message de réconfort pour une délivrance future parce qu'on passe des temps difficiles. Il annonce un temps de rétablissement. Donc parfois un prophète avait vraiment des paroles d'encouragement par rapport à l'avenir. Mais parfois il avait aussi des paroles très dures. Il reprenait, il tirait les oreilles comme je disais tout à l'heure. Et ce qu'on reconnaît aussi la parole prophétique, c'est que ce que Dieu annonce arrive. Ce que Dieu annonce ou va arriver est arrivé. Et ça confirme que c'était vraiment des porte-paroles de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi lire des prophètes? Pourquoi lire Joël? Et justement, puisque c'est des porte-paroles de Dieu, on va voir dans la vie de Joël, dans ce qu'il nous a laissé, on va voir que Joël a une vision, ou Joël il a une perception de Dieu. Donc on va découvrir au travers des écrits des prophètes une personnalité de Dieu, des attributs peut-être qui sont masqués pour nous, mais on va au travers du discours qu'il nous a laissé, on va voir qu'il a une compréhension de Dieu pour nous enrichir. Pourquoi lire des prophètes aussi? Parce que c'était des hommes de Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Donc au travers de ce qu'ils nous ont laissé, on voit leurs préoccupations, on voit leurs fardeaux, on voit leur vie qui est un témoignage aussi pour nous aujourd'hui. On voit qu'ils ont vécu dans des contextes peut-être différents de nous, mais ils ont subi certains des oppositions. Donc, en regardant leurs écrits, en s'arrêtant sur ce qu'ils nous ont laissé, ça peut être des sources d'encouragement pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, dans des contextes, de voir que c'était des hommes de Dieu qui ont eu des difficultés, qui ont crié à Dieu, qui ont eu des incompréhensions, qui ont eu de belles paroles aussi d'encouragement. Alors je crois qu'après c'est le deuxième point, comment étudier un prophète? Alors là je dis, c'est vrai que je dis des généralités, mais toutes ces petites brides de phrases que je vous laisse, ça va permettre un peu de comprendre Joël, parce que sinon ça peut être brut comme ça, complexe. Alors c'est vrai qu'étudier un prophète, je dis tout à l'heure, il y a 26 siècles qui nous séparent, on va dire, du dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc ça fait du temps qui est passé. Et donc on imagine que pour nous, à l'heure de la tablette, à l'heure de Internet, à l'heure de sources d'informations extraordinaires, c'est pas toujours évident de comprendre, de saisir la portée du message ou des textes qui nous ont laissés. Et des fois, vous direz, moi je lis les prophètes, je lis Ézéchiel, je lis Isaïe, je lis peut-être Daniel, etc. Hein, j'ai l'impression qu'ils disent un peu tous la même chose. Des fois, ils sont ennuyeux. Parce qu'on n'est pas dans, justement dans ce même contexte. On se dit, ouais, mais là, il parle d'une guerre, là, il parle d'un peuple, là, il parle d'un ennemi, là, il parle d'une invasion. C'est pas rien, 26 siècles. Donc, du coup, pour aborder un texte biblique, vous comprendrez qu'il faut connaître le contexte historique. Il est important de creuser un peu, de se dire, ben, Joël, il a vécu quand ? Qu'est-ce qui se passe au moment où Joël parle ? Ou que vous prenez un autre prophète, hein, Isaïe. Qu'est-ce qui se parle au temps d'Isaïe ? Quand on prend aussi un prophète, c'est important aussi, donc c'est un premier point, c'est le contexte historique. Le deuxième point, c'est la théologie antécédente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot un peu complexe, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Quand vous prenez un texte biblique, c'est important de le placer dans l'ensemble de la Bible, de se dire à quel moment il arrive ? Est-ce qu'il arrive au début de la Bible ? Est-ce qu'il arrive au milieu, chronologiquement ? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit avant ? Qu'est-ce qu'il a dit déjà par les autres prophètes ? Qu'est-ce qu'il a déjà annoncé ? Par exemple, Joël, quand on le prend Joël, après on va essayer de le dater un peu, quand Joël arrive, il y a déjà eu Moïse, il y a déjà eu Noé, il y a déjà eu l'histoire de Genèse, il y a déjà eu... Enfin, c'est important de placer, de se dire, mais qu'est-ce que Dieu a déjà dit avant l'arrivée du prophète ? Et donc, du coup, c'est bien d'avoir des fois des grandes lignes, de se dire, ça me permet de comprendre, Joël dit ça parce que dans tel texte, on retrouve cet aspect-là. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, au temps de binôme, je vous ai demandé de lire un texte biblique qui n'est pas Joël, mais qui est un texte de Lévitique ou de Deutéronome, de mémoire. Ça remonte avant, et ça permet aussi de se dire, ça, Dieu a dit ça avant, et ça permet peut-être de se dire, ça me permet de comprendre le texte de Joël. Donc du coup, c'est vrai, il faut avoir en texte, je crois que c'est le troisième point, en tête les alliances, les alliances que Dieu a faites avec son peuple. Parce que le prophète Joël, s'adresse souvent au peuple d'Israël. Et Dieu a fait des différentes alliances avec son peuple, l'alliance mosaïque, l'alliance de Noé. Donc c'est important aussi d'avoir en tête quel est le contenu de ces alliances. Qu'est-ce que Dieu s'est engagé envers son peuple ? Et souvent, les prophètes vont revenir sur ces alliances. J'ai fait alliance avec vous, voilà. Te plier à sa loi, on a chanté tout à l'heure. C'est dans cette démarche-là. En sous-point, on pourrait rajouter. Donc, il est important de faire attention au temps des verbes. Et notamment, ce qui est difficile avec les prophètes, il y a les perspectives sont parfois écrasées. Alors, on a du mal, et avec Joël, on aura du mal aussi, à se dire, il parle d'un événement proche ? Est-ce qu'il parle d'un événement qui est passé ? Est-ce qu'il parle d'un événement qui est plus lointain ? Donc, c'est ce que je dis, les événements écrasés. C'est pas évident pour nous aujourd'hui de se dire, est-ce qu'il y a... Dans quelle étape on est ? Est-ce que toutes les étapes sont passées ? Et des fois, les étapes sont en deux phrases, d'un verset à l'autre, on se dit, il y a peut-être 1000 ans qui sont passés. Est-ce qu'il parle d'un événement qui s'est passé en un coup ? Est-ce qu'il parle d'un événement qui s'est passé en plusieurs fois, en plusieurs étapes ? Par exemple, quand il y a un texte qui parle de la captivité, est-ce que ça s'est passé d'un coup ? Est-ce que ça s'est passé sur plusieurs siècles ? C'est pas évident de s'en sortir toujours avec la parole prophétique, donc il est important aussi de se dire, attention, le texte-là, il y a peut-être des siècles, des années qui sont passées. Donc, ce n'est pas évident pour nous de décortiquer mot à mot, des fois, les paroles prophétiques. Et dans tous les cas, les prophètes aussi interprètent l'histoire. Sur une situation, et souvent, on le fait aussi comme ça quand on veut, notamment ceux qui préparent des méditations, j'imagine, dans vos groupes GBU, souvent vous utilisez un parcours de vie personnel, vous utilisez une illustration, vous utilisez, un fait divers sur lequel vous allez vous appuyer pour développer la méditation du jour. Les prophètes, ils ont fait aussi comme ça. Ils ont utilisé parfois une situation particulière de leur peuple, de leur contexte de vie, pour appuyer un message. Et Joël, c'est particulièrement le cas, vous verrez. Donc sur une situation qu'ils ont vécue, ben, ils vont peut-être s'appuyer sur cela pour démontrer un événement qui est en train de se passer, ou même, souvent Dieu leur a permis de, ben, sur cet épisode-là, ben, ils vont utiliser cette illustration pour parler d'un événement qui est encore plus lointain. Et c'est vrai que pour nous, des fois, des paroles prophétiques, on se dit, ben, est-ce qu'il parle d'un événement qui s'est passé dans le peuple d'Israël ? Est-ce que pour nous, aujourd'hui, il veut parler d'un temps qui est encore à venir, la fin des temps ? Donc voilà, on est clairement dans une parole prophétique où des fois, on a du mal à discerner en tant que... Enfin, moi, j'ai du mal, peut-être que vous n'avez pas de mal, mais en tout cas, c'est important de le savoir aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin, face à tous ces points, on a besoin, et puis voilà, il ne faut aussi pas oublier que comment étudier hein, il y a Dieu. Dieu est clairement derrière. Et quand on prend un texte biblique, quand on prend la parole de Dieu, et c'est ce que je voulais aussi vous partager tout à l'heure, hein, quand je disais que ce qui fait autorité, c'est le texte, Dieu est clairement derrière ses prophètes. Dieu est clairement ses mots qu'il nous a laissés. Ce qu'il a dit, ce que les prophètes ont dit, ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes, va se réaliser. Et donc une prophétie, donc le prophète Joël, ben c'est clairement une déclaration que Dieu nous a laissée aussi dans notre intention. Il a laissé Joël à parler pour son époque, mais je pense qu'à la fin de cette journée, on pourra dire aussi que Dieu a parlé à notre intention. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça que je voulais aussi un peu survoler tous ces points, parce qu'on m'a demandé de traiter Joël, qu'il était important en tête d'avoir avant de se lancer directement dans le texte proprement dit. Alors là, on va passer au livre de Joël. Donc avant de lire Joël, je vous propose encore de faire une petite introduction au livre de Joël, clairement. Plus proche de notre préoccupation. Alors je disais, Joël, c'était un prophète qu'on classe dans les 12 petits prophètes. Joël, le livre de Joël, c'est un livre dont on a donné le nom de l'auteur. Alors on peut se poser la question, Joël, l'auteur, bah, qui est Joël ? Ah, je vais être bref, on ne sait pas grand-chose. Alors le verset 1 de Joël nous dit, « Parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. » Bon, ok, fils de Pétuel. Alors c'est une indication qui ne lève pas davantage le voile, parce qu'on ne connaît rien de ce père. Si on nous avait dit Joël, fils de Moïse, ah ouais, par exemple, on aurait, ben Moïse, on a des indications, alors on aurait pu détailler sa famille, on aurait pu dire, ah ben, Joël était comme ça, ben... Ouais. Ben là, non, Pétuel n'est pas connu. En tout cas, la Bible ne nous en parle pas davantage. Et en fait, cet homme, Joël, reste vraiment inconnu dans son caractère, dans son histoire, même à quel moment il a vécu. C'est vrai que les commentateurs de la Bible diront, bah dans l'Ancien Testament, on trouve, on va dire, le prénom Joël 12 fois, mais aucune des 12 fois, on peut l'attribuer à cet auteur du livre de Joël. Alors, on peut se dire, ce qui est sûr, et je pense que je peux l'affirmer, c'est que lorsque Joël a écrit cela, lorsqu'il a écrit Joël, fils de Pétuel, je pense qu'il était connu. Les contemporains de Joël, lorsqu'ils ont lu ce texte, n'avaient pas besoin de davantage de précision. Ça veut dire que Joël était connu, en tout cas par ceux qui ont lu, ceux qui ont recopié ces textes. Ils n'avaient pas besoin de davantage d'informations. Alors Joël signifie, hein, il y a toujours un sens derrière les prénoms bibliques, Yahvé et Dieu, ça veut dire l'Éternel et Dieu. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au travers du texte... Alors du coup, comment on sait des choses sur Joël ? Ben, c'est le texte de Joël qui va nous... On va essayer de creuser, on va se dire, ah, là, il aurait exercé. Donc, il aurait exercé un ministère, un travail en Juda, donc clairement, et probablement proche de Jérusalem. Alors, il y a quelques données qu'on a dans le texte qui permettent peut-être de cerner un peu plus qui est Joël. Et là, je laisse un point d'interrogation, c'est pour ça que... Joël, un point d'interrogation, et puis la date aussi, hein, ça va, de toute façon, c'est lié les deux. Alors, on verra dans Joël qu'il parle à plusieurs occasions du temple, de prêtres, de sacrifices. Donc, certains vont dire qu'en raison de cette familiarité avec le temple, Joël était peut-être un prêtre, un sacrificateur. Voilà, c'est une déduction, mais on ne peut pas l'affirmer. Ce qu'on pourrait dire, c'est sûr, il a vécu ou va vivre où il aura vécu, enfin, le texte, vous verrez, pendant une période de sécheresse, d'invasion de criquets notamment. Et là, il y a aussi deux hypothèses. Est-ce qu'il l'a déjà vécu? Est-ce que c'est un événement à venir? En tout cas, Joël se sert d'événements, et on va le voir, qui vont asseoir sa prédication, son message, son écrit. Alors, on peut se dire, est-ce que la période du livre de Joël est un peu plus précise que ce personnage, Joël? Ah, là, c'est encore un point d'interrogation. Le texte ne nous donne pas d'indication précise. Vous avez des livres prophétiques où, clairement, le livre est associé à un roi, par exemple. Donc, clairement, on arrivera à le situer, parce que le roi, on va, à un moment donné, retrouver une chronologie biblique. On va trouver une chronologie du roi. On va se dire, ben voilà, c'est avant ce roi, après ce roi, dans telle situation. Donc, on arrive à le placer dans un siècle. Joël, c'est déjà un peu moins évident. Et quand j'ai étudié un peu ce contexte-là, la datation de Joël, ben, les commentateurs ne sont pas d'accord. Ils vont utiliser les mêmes arguments, on va dire, les quelques arguments qu'on a dans le texte de Joël pour dire, ben, Saint Joël, ben, il est au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc assez, le plus proche de nous. Et certains vont le placer encore plus vieux, à 830. 825 avant Jésus-Christ, donc c'est quasiment 9 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le grand écart là. Et on va dire les commentateurs évangéliques proches de nous peut-être placent Joël vraiment au plus loin, donc ça veut dire au 9e siècle avant Jésus-Christ, parce que vraiment sa parole, et on retrouve, enfin il y a différents arguments peut-être que je peux dire quelques éléments. Hein. Pourquoi on le place Joël dans une chronologie aussi floue, ben, il n'y a pas de roi. On ne parle pas de roi dans Joël. Alors, soit c'est une période où il n'y a pas eu de roi, donc c'est le silence, on dit il n'y a pas de roi, bon. Ou soit le roi était pas franchement envie, donc on ne veut pas en parler. Soit le roi a très peu de poids dans la vie politique. Et donc, c'est pour ça que certains pensent au roi Joas. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Joas, mais Joas est un roi qui a accédé à la royauté à l'âge de 7 ans. Il avait été caché par sa nourrice, parce qu'il avait une reine-mère qui a massacré toute la famille. Et une nourrice l'a protégé et l'a caché dans le temple. Et à un moment donné, le prêtre a dit, ben voilà, ce roi va être roi. Et il a proclamé au peuple. Et du coup, il y a eu un moment de, on va dire, un moment de royauté où il y avait une royauté partagée entre un prêtre, Jéhojadas notamment, et ce roi Joas. Donc voilà, il était trop jeune pour gouverner. Donc il y avait clairement une direction du pays avec un prêtre. Donc certains placent, c'est pour ça qu'on place au 9e siècle, place ce texte à cette période-là, où il y avait un roi, mais il était encore trop jeune pour diriger. Après, on ne voit pas trop, alors on le place aussi au 9e siècle parce qu'on ne voit pas trop les ennemis. Alors on verra que dans le texte biblique, il y a certains pays, ou enfin certaines nations qui sont données. On va parler d'Égypte, on va parler d'Édom, on va parler des Philistins. Donc du coup, c'est des ennemis d'Israël et du peuple du Juda, clairement, dans cette période-là du 9e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors que si on venait dans une période plus proche, on va dire de Jésus-Christ, hein, plus proche du 5e siècle, par exemple, ben, il y a plutôt des ennemis comme les Babyloniens, les Perses, les Assyriens. Mais comme le texte de Joël n'en parle pas, ben, on l'imagine plutôt proche du 9e siècle. Donc vous voyez, on essaye de placer Joël sur des arguments du silence. Le texte ne nous dit pas, donc, le prédicateur Joël n'a pas dit ça, donc on pourrait le placer à tel endroit ou tel endroit. Donc les mêmes arguments sont repris par ceux qui placent vieux, enfin un Joël loin, ou ceux qui le passent plutôt proche de Jésus-Christ, enfin 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est encore loin, mais ben voilà, ils prennent les mêmes arguments ben, pour dire, ben, comme ils n'en parlent pas, c'est plutôt là, et comme ils n'en parlent pas, non, c'est plutôt là. Voilà, donc vous comprenez un peu mon gêne de pouvoir ne pas vous donner de date. Alors ce qui est important aussi, et je vais vous le signaler, c'est que le livre de Joël est aussi proche d'autres livres prophétiques. Alors d'autres petits prophètes, on a notamment Abdias, le prophète Amos, qui est par contre lui bien daté. Par exemple, le prophète Amos est aussi un petit livre, il est bien daté. Et par exemple, on retrouve une citation d'Amos, on retrouve une citation de Joël. Alors de se dire qui a pris de qui. Donc soit on dit que c'est Amos qui a pris de Joël, donc Joël est avant Amos, soit on dit ben, Joël a repris ce verset, cette période, et ben, du coup c'est après Amos. Bon, voilà. À votre choix, je laisse votre intelligence réfléchir. En tout cas, vous voyez bien que ce n'est pas évident de placer, on va dire, ce contexte, mais au travers de quelques pistes, au travers de la lecture, vous verrez que la datation n'a très peu d'importance. De savoir qui était vraiment Joël a aussi très peu d'importance. Du coup, je vous propose de lire le texte. Alors, je vais lire le texte, alors sauf si quelqu'un a une belle voix et qui a l'habitude de lire. Mais... En tout cas, donc, j'ai distribué des feuilles, hein, vous verrez, ça tient en deux A4, ou un A4 recto verso, comme vous voulez. Alors, je prends la traduction second 21. Alors, Joël, parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin. Lamentez-vous parce que le vin nouveau vous a été enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétrit. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Quel jour terrible! Oui, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides et les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage, et même les troupeaux de brebis dépérissent. C'est vers toi que je crie, Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se basculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter ? Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu ? Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations ». Pourquoi, dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne dorneront leurs richesses. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël. Mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous vous venger de moi ? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Vous avez pris mon argent et mon or, Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les Judéens et les habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Je les ferai revenir de l'endroit où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux Judéens et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines. L'Éternel a parlé. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les guerriers, qu'ils approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Dépêchez-vous de venir, vous toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes guerriers. Que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la fossile, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Ce sont des foules dans la vallée de jugement, car le jugement de l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. À ce moment-là, le vin nouveau ruisselera de les montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert à cause de leur violence contre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé, et l'Éternel habitera dans Sion.
Je vais boire un coup.
On va essayer de passer à le plan structurel du livre. Alors, c'est vrai que la prophétie, le livre de Joël est court. On a mis un peu plus de 10 minutes pour le lire. Un peu condensé, c'est vrai. Et nous, quand on fait notre méditation quotidienne, on lit un chapitre après chapitre. Et je trouve que c'est important aussi de lire des fois un livre en entier. Parce qu'on a la pensée de l'auteur dans son global. Et je vous encourage aussi des fois à vous prendre simplement des temps de lecture, à lire un livre dans son ensemble. C'est un texte qui ne manque pas de beauté, ni d'intérêt. Enfin, ceux qui sont littéraires vont dire, oui, c'est vrai, il est intéressant. Et c'est vrai que quand on creuse un peu ce texte, vous verrez qu'il y a de nombreuses, bon, vous l'avez déjà peut-être entendu, il y a de nombreuses figures de style, il y a beaucoup d'images. Il y a des comparaisons, il y a peut-être des métaphores, enfin en tout cas ceux qui aiment bien les lettres, et qui étudient les textes, ils ont vu des métaphores, des comparaisons, des parallélismes. On va retrouver des synonymes, des antithèses, des oppositions. Alors une des premières questions que je me suis posée quand j'ai pris ce texte, je me suis dit, mais est-ce qu'on doit prendre ces paroles, et même pour Joël à l'époque, je me suis dit, est-ce qu'on doit prendre ce texte de façon littérale? Est-ce qu'on doit prendre cela comme des symboles? Alors, par exemple, vous avez vu, on a parlé de sauterelles, invasion de sauterelles. D'un coup, on parle d'armée. Alors, est-ce que c'est une armée de sauterelles? Ou est-ce que c'est une armée, et du coup, c'est vraiment une armée, et on se dit, il utilise l'image de la sauterelle. Pas évident de s'en sortir. Dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que probablement, il y a des deux. Je ne me mouille pas quand je dis ça. En tout cas, ce qu'on est sûr, ce texte, c'est pas. On sait que ce texte est clairement, un message qui est fait pour être lu. C'est pour ça que je disais que ceux qui font des lettres et qui étudient les textes, on va le voir, il y a une structure. Waouh ! Moi, je trouve que c'est très beau. Et bon, je n'ai pas cherché de moi-même. Il y a Sylvain Rimorowski, il y a Henri Blocher, par exemple, pour ne citer qu'eux, qui se base sur le plan que je vais vous donner tout à l'heure. il y a une vraie construction. Il y a une très belle structure. Et je trouve, et moi, d'un coup, quand j'ai découvert cette structure en l'étudiant, je me suis dit, waouh, la parole de Dieu, elle est vachement bien construite. Et du coup, on découvre au travers de cette structure un écrit qui est fait comme un tout. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le lire en entier. C'est vrai qu'on va dire, il y a plein de choses qui se sont passées, là, en 10 minutes, on a entendu plein de choses, on a eu des trucs qui se sont répandus. Mais le fait de le lire ensemble, et maintenant, de le découper ensemble, et c'est pour ça que j'ai distribué une feuille, hein, où n'hésitez pas à un moment donné de se dire, je vais mettre un trait ici, je vois cette première partie, là, on va voir la deuxième partie, le troisième point. Alors, c'est pour ça que certains vont parler aussi de ce texte comme un texte liturgique. Et il y a certains mouvements certains milieux qui vont vraiment clairement prendre ce texte comme un texte qui est lié au culte du temple. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas de datation précise sur ce texte, on n'a pas de détails très précis sur Joël, parce que justement c'est un texte qui est lié au culte, comme on a chanté des cantiques, c'est un texte qui est pris pour être pris dans des situations, on va dire, aussi floues, aussi vastes que possible. Donc on peut le prendre lorsqu'il y a une situation dramatique, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsqu'il y a une guerre, enfin voilà. On a vraiment c'est clairement dans une situation désastreuse. Donc c'est pour ça que certains vont dire, ce texte-là est lié plutôt à quelque chose de cultuel, lié au culte. Comme le font par exemple des psaumes. Pour nous, c'est plus facile pour dire des psaumes, c'est clairement, ça a été des cantiques, ça a été des choses qui sont liées à des cultes. Et Joël, peut-être, c'est peut-être moins évident. Mais certains vont clairement, et dans sa structure, et dans cette beauté, on va dire même littéraire, et dans ce certain flou, on va dire, de détails, c'est peut-être lié à... On va pouvoir le prendre, quelle que soit la situation, quel que soit notre contexte. Donc il y a une certaine intemporalité, on pourrait dire. Mais revenons au plan. Alors, le plan que j'ai retenu, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de Sylvain Rimerowski, et on le retrouve notamment le plan dans son commentaire. On trouve le plan aussi dans la Bible d'études se meurt. Et alors, je ne sais plus, je n'ai pas regardé en détail dans la Bible second 21 que certains ont. Voilà, en tout cas, il y a une grande division. Alors, en deux chapitres, on va dire deux fois deux chapitres. Alors, là, je vais tout de suite faire une remarque. Certaines Bibles, et surtout les anciennes versions, ont que trois chapitres. Et alors, on va dire, le troisième chapitre dans les vieilles versions, c'est le chapitre 4. Et le chapitre 3 de nos nouvelles versions, c'est la fin du chapitre 2. Et en fait, le découpage est plutôt logique en quatre chapitres, parce qu'il se base sur le texte hébraïque, où il y a vraiment ces rythmes-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on pourrait dire il y a deux découpages. Donc on va dire, il y a une première partie, le chapitre 1 et 2. Et alors là... Il y a certains, ils sont d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, mais je vais présenter comme ça va être plus simple pour nous ce matin. Les premières parties, et on va dire, les deux premiers chapitres parlent d'un présent qui est plutôt proche. On va dire proche de la vie de Joël. Il va s'appuyer sur, une plaie physique, un événement catastrophique, une famine, un désert, une invasion de sauterelles. Et voilà, c'est vraiment cette partie 1. La partie 2, par contre, elle va parler plutôt d'un avenir qui est plus lointain. Alors, plus incertain, et on va retrouver cette formule après cela. On va dire que c'est plus loin. C'est l'achèvement des desseins de Dieu. Alors, est-ce que c'est des liens ? Bien sûr, il y a des liens très étroits avec la première partie de Joël. Mais est-ce que c'est des événements qui sont plus loin de la vie d'Israël ? Est-ce que c'est des événements qui nous concernent, nous, aujourd'hui ? C'est intéressant, on va voir, et je propose de... Alors, on va rentrer dans le détail. C'est sûr, les deux parties ne sont pas distinctes l'une de l'autre. Elles sont très soudées. C'est pour ça que quand on le lit en entier, on n'a pas l'impression qu'il y a deux parties, mais quand on s'arrête dans le détail, il y a clairement un peu, on va dire, deux sons de cloche. C'est vrai qu'ils sont soudés parce que les images de la première partie se retrouvent dans la deuxième partie. Joël, c'est pour ça que je disais, Joël va s'appuyer sur des images pour illustrer la prophétie, la parole que Dieu lui a laissée. C'est pour ça que tout le monde reconnaît que ce texte est vachement bien fait. Alors la première partie. Alors je disais que la première partie, elle est clairement, il est question de sauterelles. Alors certains vont y voir une invasion militaire, clairement une invasion d'un peuple, on peut le dire. Et l'invasion d'une sauterelle ne serait qu'une image, mais voilà, je pense que dans un sens ou dans l'autre, le sens du message est le même. En tout cas, il y a la désolation. C'est clairement, il y a l'invasion d'une armée de sauterelles ou une armée physique. Et ce plan est vraiment trisymétrique. Alors, premier chapitre, de 1 à 12, on voit la désolation du pays. Ok ? Après, on passe à un deuxième temps, le jeûne de lamentation sur la catastrophe, versets 13 et 14. Il y a une lamentation, il y a un jeûne. Après, il y a une partie, c'est, qui est centrale, le jour de l'Éternel est proche, qui lui-même est une symétrie dans le détail. Et après, on retrouve de nouveau, on va dire, B', de nouveau un appel au jeûne et à la repentance, versets 12 à 17. Et après, on termine, cette première partie se termine avec le dédommagement pour la désolation. On peut laisser afficher pour l'instant, pour ceux qui copient, mais on pourra vous le filer sans souci. Et vous voyez déjà, A' va répondre à A. Ah, Joël parle d'une désolation, du ravage, oh là là, c'est la catastrophe, il n'y a plus d'eau dans les rivières, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien à manger. Et vous retrouvez en A' la restauration. Et ce qui est au cœur, vraiment, c'est le jour de l'Éternel est proche. Et d'ailleurs, plusieurs fois, cette expression parcourt le texte de Joël, et c'est vraiment le cœur, c'est le jour de l'Éternel. C'est bien fichu, je trouve, ce passage. Alors, on propose de passer à la deuxième partie. Alors, je disais que la deuxième partie, chapitre 3 et 4, parle d'un avenir plus lointain. Donc, Joël va utiliser cette invasion de sauterelles ou une invasion d'armée pour le message dans sa deuxième partie. Un message à long terme. Ce message qui était à court pour le peuple d'Israël anticipe un autre jour de l'Éternel. Il y a clairement une réalité, on va dire même eschatologique, de la fin des temps. Et dans cette deuxième partie, qui est très structurée, elle est structurée en trois, et elle est structurée, et on pouvait le souligner, donc chapitre 3, et elle est structurée par le rythme, après cela, avec cette formule, après cela, ce moment-là. Donc on le retrouve au verset 1, on le retrouve au verset 4 du chapitre, on le trouve au verset 1 du chapitre 4, en effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, et on le retrouve à la fin du chapitre 4, au verset 18, à ce moment-là, le 20. Donc, il y a trois parties qui sont rythmées par ce début de phrase vague, par une expression « après cela, à ce moment-là ». Et chacune de ces parties est découpée, alors tu peux afficher la suite, et chacune de ces parties-là, de ces trois parties, est découpée par « salut, jugement, salut ». Alors, la première partie qui commençait au chapitre 3, du verset 1 à 2, ça va parler plutôt de salut. Le verset 3-4, ça va parler de jugement. Et le verset 3.5 de cette première partie va parler de nouveau de salut. La deuxième partie qui commence à partir du chapitre 4 au verset 1 va à nouveau démarrer par le verset 1 qui va parler de salut, qui va parler de jugement, d'événements terribles entre 2 et 16. Et puis après, la fin de cette partie, de 16b à 17, va parler de salut, de restauration. Et puis la troisième partie, ça va être de même. 4.18, le salut, 4.19, on va parler de jugement, et les deux derniers versets vont parler de salut. Donc là, c'est rentrer dans le détail. Mais ce découpage, et c'est pour ça que tu peux passer à la suivante, alors les grandes parties, on retrouve le même rythme, salut, qui encadre jugement et salut. Alors la deuxième partie, comme la plus grande part des versets parle de jugement, on peut parler vraiment, cette partie parle du jugement, elle est terrible, elle est noire, c'est pour ça que je suis habillé en noir. Et puis après, ce temps de jugement est encadré par deux temps de salut. Et vous verrez que ce texte, ce découpage, cette structure, c'est un peu, on va dire, pour ceux qui aiment la symétrie, qui aiment la littérature, c'est intéressant. Mais on voit que Joël a composé avec art, avec réflexion, son message. Le plan démontre que ce n'est pas simplement une suite chronologique. Et c'est vrai que nous, on raisonne comme ça. Point A, point B, point C, point D, point E. Enfin, il y a une démonstration. Et je vais essayer, dans mon propos, j'ai essayé en tout cas d'être comme ça. Je ne suis pas circulaire ou même avec un message qui est au cœur. Et en tout cas, on le voit clairement au travers de cette structure. Ce n'est pas aussi facile, on ne pourrait pas dire c'est chronologique. C'est plutôt un très beau texte, on va dire même, on pourrait dire poétique, prophétique, où il y a un message général avec un certain nombre d'indications, un certain nombre d'éléments, et il y a une progression. Est-ce que je pourrais dire pour conclure ce premier temps ? Je ne pensais pas aller tenir à une heure, mais j'y suis pas loin. Pour conclure, pour nous encourager un peu par rapport à tout cela, on pourrait se dire, en lisant comme ça le passage, ah, le passage il est quand même dur, il parle de famine, de désert, de désolation. Enfin, il y a des mots un peu, voilà, de cri, de malheur. Mais on voit dans cette structure, notamment, et dans le thème aussi, parce qu'on voit des temps de restauration, des temps de paix, de salut, il y a quand même un message qui est apaisant dans le livre de Joël. Il y a le jugement, ouais, mais le salut est associé au jugement. Oui, le Dieu saint, et Joël voit un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère pas une situation difficile, une rébellion, ne peut pas passer sur le tort. Il y a besoin de jugement. Mais il y a la grâce, et on le voit, il y a même ce mot grâce qui est dans ce texte, et on reviendra cet après-midi. Il y a la grâce. Mais cette grâce, elle n'est pas simplement gratuite. Elle se base vraiment parce qu'il y a un jugement d'un côté. Joël peut dire il y a un cadeau de l'autre côté. Il y a le salut, il y a une restauration. C'est parce qu'il y a cette situation dramatique, parce qu'il y a cette réalité difficile, cette réalité de péché, cette réalité sale, d'impasse, voilà, qu'il y a de l'autre côté le salut. Joël voit un Dieu de salut. Donc ce n'est pas simplement un texte noir. Et c'est vrai que si, dans votre méditation quotidienne, vous lisez juste le chapitre 1, bon, il y a la fin, voilà, c'est noir. Alors on dit, ah, ma journée ne commence pas bien. C'est pour ça qu'il faut le lire en entier. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce premier temps. Alors je sais, on l'a juste survolé, mais ça donnait quelques pistes. Et cet après-midi, on essaiera de rentrer plus en détail pour être encouragé. Et alors, du coup, maintenant, on a un temps, et avant de conclure encore par un moment où je vais prier. Alors, sur le dos, alors si quelqu'un peut juste me filer ses feuilles avec les questions. Donc, pour votre temps à part, alors, je vous ai demandé de lire Lévitique 26 ou Deutéronome 28. C'est peut-être un peu long, mais vous pouvez limite le survoler. Et c'est des questions, alors on peut se dire, mais là il y a le malheur qui arrive dans Israël. Alors pourquoi le malheur? Pourquoi il y a ça? Et Joël ne donne pas vraiment de raison. Et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être intéressant de se dire, on est en présence du peuple d'Israël, mais Dieu n'avait-il pas dit quelque chose, des sanctions à Israël, si dans telle situation, il y a telle chose, vous arrivera si dans telle situation. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques questions. Alors ça bouscule un peu parce que c'est l'Ancien Testament, on n'aime pas trop des fois lire Lévitique et Deutéronome, mais ça va très bien, je pense, aussi compléter ce qu'on verra cet après-midi. Voilà, et avec les quelques questions, en tout cas que peut-être en petit binôme, vous pouvez revenir sur Joël ou peut-être agrémenter sur ce temps avec ces quelques questions.